226. Donc résumons ce qu'on a expliqué. Dans le chapitre 6, on a posé une question. On a dit 226. Poser une question. On a dit, si on va dans le livre, quand le... étant donné que, d'après ce qu'on a expliqué, celui qui était Khayav Karet, une personne qui était passible de retranchement, normalement, une personne comme ça devait quitter ce monde avant 60 ans. Alors comment ça se fait que dans la réalité, c'est pas forcément ce qu'on voit, et que dans la réalité, on a des Rechaïm qui vivent longtemps. Comment ça se fait? C'est pas qu'on veut qu'ils meurent, Hazachalom, c'est une question qu'on veut comprendre. Et Admor HaZaken a expliqué un sujet très important. Il a dit qu'il y a une différence entre la conduite du monde à l'époque du Beit HaMikdash et la conduite du monde pendant la Galoute, pendant l'exil. À l'époque du Beit HaMikdash, tout est cohérent. Dans le sens que c'est clair, c'est limpide. Celui qui se comporte comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu lui donne ce qu'il faut. Et celui qui se comporte pas comme il faut, ben, dans son champ, il n'y aura pas de récolte. Comme c'est écrit dans le schéma. Ça, c'était à l'époque du Beit HaMikdash. À l'époque du Beit HaMikdash, les choses étaient claires, les choses étaient limpides, les gens savaient que lorsqu'ils faisaient une mitzvah, il y avait une récompense. Et lorsqu'ils faisaient une avéra, il y avait une punition. Vous savez, c'était comme ça. Ça, c'était à l'époque du Beit HaMikdash. Mais, une fois que le Beit HaMikdash était détruit, que nous sommes maintenant en Galout, on a dit que une des difficultés de la Galout, c'est quoi? C'est que les choses sont plus floues. Que tu peux avoir une personne qui se comporte comme il faut et qui n'a pas ce qu'il faut. Et tu peux avoir une personne qui se comporte pas comme il faut et qui a au contraire tout ce qu'il faut. Et qui au contraire, il va avoir plus que ce qu'il devrait avoir. Beaucoup plus. Pourquoi? Alors on avait terminé le cours la semaine dernière. On avait expliqué qu'en fait, il y a deux conduits pour recevoir l'énergie divine. Il y a un conduit direct et un conduit indirect. Et par le conduit indirect, c'est le conduit par lequel sont nourries toutes les forces du mal, les astres, etc. Et alors, et donc on a expliqué, c'est pas le bon volume, tu vas dire. D'ailleurs, on a expliqué que 226. D'ailleurs, on a expliqué justement que lorsqu'une personne se comporte comme un rachat, il faut savoir qu'un juif qui fait une avéra est un fournisseur des forces du mal. Comme ça, c'est écrit. Donc, lorsque les forces du mal voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont automatiquement bichonner ce juif. Ils vont lui donner tout ce qu'il veut. Ils disent, on vient, on va faire kiffer. Pourquoi? Vous allez continuer à le fournir rapidement. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Donc, c'est pour ces deux-là que vient la Ferrari et la Porsche du fauteuil. Encore une fois, on n'est pas là pour donner des notes, on ne sait pas qui et quoi. Parce que peut-être que nous, on est plus rachat que celui qu'on parle de rachat. On n'est pas là pour donner des notes. Mais c'est juste une question. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? On va expliquer. Alors, on est en bas de la page 226. Et aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va terminer le chapitre 6, et après on va aller au chapitre 7. Zéou, Shamrou, Rabotenu, Zichonam, Livracha. Avec ça, on va comprendre ce que les Chachamim ont dit dans le Pirkei Avot. En Beyadenu, Lo, Michal, Vat, Arishaim. Nous ne savons plus ce que c'est. Shalvat, Arishaim. La sérénité, le bien-être des méchants. Et ni les souffrances des tzadikim. C'est Mishnah dans Pirkei Avot qui dit qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est le bien-être des Rechaïm et la souffrance des tzadikim. Qu'est-ce que veut dire cette Mishnah? Ce que veut dire cette Mishnah, c'est la chose suivante. Il dit, ça veut dire, Beyadenu davka, kelomar bizman agalut achar achurban, vezeu prinat galut ashrina kaviachol. Il est bien précisé que de nos jours, on a plus ça. Ça veut dire quoi de nos jours? Ça veut dire que c'est un phénomène qui est lié à l'exil. C'est important à comprendre ça. Parce que les gens, ils comprennent pas, ils sont un peu perdus, ils se disent, mais comment ça se fait, on comprend pas ce qui arrive, etc., c'est pas cohérent, c'est pas logique. Il faut comprendre que la Gemara en parle déjà, et le Pirkei Avot en parle déjà. On parle de ce phénomène, qui dit que, plus on avance dans l'exil, et plus on a du mal à comprendre comment fonctionnent les choses. Il y a rien de pire que ça. Il y a rien de pire que ça quand on comprend pas comment les choses fonctionnent. Alors, en général, on a un système qui est plutôt cohérent, dans lequel on est dans la Torah, dans les mitzvot, mais des fois, il y a des choses, il y a des incohérences qui arrivent. C'est très difficile à voir quelle est la lumière et quelle est l'obscurité. Je vous donne un exemple pour expliquer ce que je veux dire. Vous savez, le prophète Isaïe, lorsqu'il décrit la fin des temps, il dit « Malheur à ceux qui appellent la lumière obscurité et ceux qui appellent l'obscurité lumière. » Comment vous comprenez ce verset? De quoi il parle? D'accord. En fait, c'est quoi le problème? C'est que à l'époque... Quand je dis à l'époque, on pouvait remonter à 100 ans, 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, peu importe, chacun met l'époque où il veut. Il est tome 3, je crois que c'est pas les bons, il était tome 3 là-bas encore. À l'époque,
là, y en a un.
Les choses étaient... Je voudrais m'arrêter sur ce sujet parce que je pense que c'est un sujet très important. À l'époque, les choses étaient claires. Dans le sens que celui qui faisait une bonne action savait que c'était une bonne action. Et celui qui faisait une mauvaise action savait qu'il était dans le tort, qu'il faisait une mauvaise action. Je vais donner un exemple très simple. Prenez par exemple l'exemple des... comment on appelle ça ? On va parler par exemple des relations interdites. Les relations interdites, c'est interdit une relation interdite. Prenez par exemple l'exemple des... un homme qui veut aller avec un homme et une femme qui veut aller avec une femme. Comment on appelle ça là ? Hein ? Voilà, bon. Ok ? C'est pas un phénomène qui a commencé aujourd'hui.
Ça existe pas encore.
Bien sûr, la Torah en parle. Si la Torah en parle, c'est que ça existait.
Ça a toujours existé.
Bien sûr, la Torah elle parle de toi et va. Alors qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi aujourd'hui c'est grave ? Parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui a toujours existé. C'est toujours dans toutes les civilisations ça existait. Même chez nous ça existait. Il y a des halakhot sur ça dans le Shulchan Aruch. Comment on fait si un homme qui est un peu trop comme ça, comment on fait ? Est-ce qu'on a le droit de s'isoler dans la même pièce que lui ou pas, etc. Il y a des halakhot. C'est des choses qu'on a. Bien sûr ? Bien sûr ? Il y a des cas où on n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. Oui, bien sûr. C'est des halakhot qu'on écrit dans le Shulchan Aruch. Avec un juif, avec un goy, il est comme ci, il est comme ça, bien sûr. Enfin, c'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui. Donc, dans toutes les civilisations, il y avait ces problèmes. Seulement, quelle est la différence ? C'est qu'au moins, avant, les choses étaient claires. Dans le sens que même celui qui fautait, il savait que c'était interdit. Il savait que c'était interdit, il savait que c'était péché. Alors on savait, soit il faisait en cachette, soit il faisait devant tout le monde, mais au moins il savait, au moins quand quelqu'un venait lui dire c'est interdit, il disait pas non, c'est pas interdit. Il disait c'est interdit, mais j'ai envie. Bon, ok, c'est entre toi et le bon Dieu. On est d'accord ? Ça c'était à l'époque. C'est comme ça. Okay. Maintenant, de nos jours, non seulement que c'est autorisé, enfin, la l'autorise pas évidemment, oui, mais de nos jours, non seulement que c'est autorisé, mais carrément, on te met mal à l'aise que tu en parles.
Ah oui,
ça veut dire que maintenant, tu comprends, c'est, voilà, t'es homophobe, comment tu oses faire comprendre qu'il y a un problème? Maintenant, plus on avance dans la génération, et plus on retrouve ça, Dieu préserve, dans les connaissances, dans le cercle des connaissances, dans les amis, et parfois même, chas v'shalom, dans la famille. Chose qui arrive. Et tu sais pas comment réagir par rapport à ça.
Parce qu'ils ont pas d'avis.
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand c'est vrai, tu sais pas comment réagir. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah dessus? Vous savez ce que la Torah dit sur ça? Elle dit Toreva, Chazak, elle dit abomination. C'est-à-dire deux choses l'une. Soit le gars c'est abomination, soit le gars c'est un malade. Voilà, deux choses l'une. C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi qui le dis. J'ai pas peur qu'on traite de ma femme, c'est la Torah qui le dit. Seulement, on vit tellement dans une obscurité, dans Rocher, que on a l'impression que l'obscurité est de la lumière. Et que la lumière est l'obscurité.
Que le mal c'est le bien.
Et que celui qui va dire mais attendez c'est péché, on va lui dire ah t'es obscurantiste, c'est les valeurs obscures, c'est les valeurs c'est has-been, c'est arriéré. Nous on est les éclairés. Comment ça marche? Alors c'est ce qu'il veut dire ici. Hein? Quoi? Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'en vérité on vit dans un monde, dans lequel l'obscurité devient lumière et lumière devient obscurité. Et ça, c'est le challenge aujourd'hui. On est en plein dedans. Alors, puisqu'on est en plein dedans, c'est important de savoir au moins que c'est un phénomène qui était prévu par la Torah. Ne pas croire que le système a dératé, que maintenant c'est fini, on est bloqué. Sachez qu'un des phénomènes de l'exil, c'est justement ça. Que les repères sont pas clairs. On sait pas qui est Racha, qui est Tzadi, qui se comporte bien, qui se comporte mal. Je vous donne un exemple, d'accord? Imaginez par exemple, je crois que je vais donner quelques mois cet exemple. Imaginez par exemple que vous avez un gros bolide. Bon. Et vous allez, bon, j'ai à côté de moi une auto-école, donc je fais attention à ce que je dis. Vous avez un gros bolide, ok? Et il va sur l'autoroute avec. Il peut monter à combien de gros bolide?
300
km/h. D'accord? Très bien. Ah oui, il va être content, il va avoir récupération. Attendez. Récupération. Donc il est parti dans l'autoroute, il avait une grosse voiture, 130 c'est la deuxième.
Bien sûr.
C'est juste, d'accord? Il croyait que 130 c'est la vitesse minimum, il n'a pas compris, d'accord? Donc il accélère et il fonce comme un malade. Il se fait arrêter par la police. Qu'est-ce qu'elle lui dit la police?
C'est limité à 130.
C'est limité à 130. Qu'est-ce qu'il répond?
Il a dit, ma femme a disparu avec un gendarme, j'ai cru qu'on me l'a ramené.
D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, un type normal, il va dire, bon, écoutez, monsieur l'agent, vous avez raison. C'est toujours comme ça qu'on parle. Vous avez raison, mais je me suis laissé... Allez, je me suis laissé courir, je me suis laissé emporter par la vitesse. Donc ça, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette réponse? Je sais que je suis dans l'erreur, mais j'ai fauté. Alors, bon, faites ce que vous avez à faire. Des points en moins, des points en moins, un permis en moins, un permis en moins. Des... Bon, faites ce que vous avez à faire. Il y a du bon au moins dans cette réponse, c'est quoi? C'est que le gars, il admet
il reconnaît.
Qu'il y a un problème, il reconnaît.
Il a goût qu'il aura la loi, quoi.
Maintenant, imaginez le gars, tu comprends, qui est en train de remettre en place le flic, l'agent. Il dit, monsieur l'agent, vous avez rien compris, c'est n'importe quoi, c'est jamais écrit qu'il faut rouler à 130, ça n'existe pas cette loi. Et il commence à tourner la tête à l'agent pour lui montrer que lui et l'agent, c'est le remard. Et moi, je dis la vérité. Là, c'est plus compliqué. Là,
il complique.
Là, c'est plus compliqué parce que si t'as pas de repère dans ta vie, donc on sait plus qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est peu recommandable, c'est plus compliqué. Ben, si vous voulez, c'est la même chose. Si au moins les choses sont claires, ça c'est une mitzvah, ça c'est une avéra. C'est clair. Donc, il y a un qui a fait mitzvah, l'autre qui fait une avéra. Au moins, même celui qui fait l'avéra, il sait, bon, ce que j'ai fait, c'est pas bien, mais c'était difficile. Je me suis laissé aller. Mais au moins, c'est clair, il sait. Mais si celui qui fait une avéra, il est en train de te rendre sacré l'avéra et de te dire, ma avéra n'est pas une avéra, ma avéra est une mitzvah, où on va comme ça? Et la vérité, c'est qu'on pourrait donner plein d'exemples, parce que comme a dit Michael, Mamash, on souhaite Mazel Tov, encore une fois. Donc, lorsque on vit, t'as dit Michael, on vit ma mâche en plein dedans. Regardez. Par exemple, bon, aujourd'hui Al-Qaïda c'est fini, je sais pas, ils ont eu des. C'est qui les remplaçants d'Al-Qaïda?
Daesh.
Hein, Daesh, très bien. Donc aujourd'hui, vous avez par exemple, dans le monde, la guerre entre Daesh et.
Le monde.
Et le monde. D'accord? Daesh et l'Occident. Ok. Donc Daesh et l'Occident. Donc il y a un combat. D'abord, il y a un combat d'armes, mais vous savez que derrière chaque combat d'armes, il y a un combat idéologique. Ça a toujours été comme ça dans le monde. D'accord? Quand il y a un combat entre deux pays, c'est soit un combat territorial, oui, ça veut dire tu rentres dans mon terrain, je t'embête, mais là c'est pas un combat territorial. Peut-être en Israël, mais bon. C'est un combat de ressources, un combat territorial ou un combat idéologique. Alors, si vous demandez à nous qui sommes de l'Occident, tu lui dis qui est le bon, qui est le mal. Tu dis, ben, nous on est le bon,
oui, c'est sûr.
Et eux c'est Satan, eux c'est le mal, absolu. Donc tu vas poser la même question à un gars de Daesh, marché même, d'accord? Tu vas lui dire, mais, venez à Forou, ils vont faire l'inverse. On inverse les rôles. Tu vas dire, mais qui est quoi? Il va dire, nous, on a Allah, nous, on a la vérité. Eux, c'est le Satan, c'est l'Amérique. Toi, tu dis, tu fais comme ça. D'accord? Mais si on prenait du recul, mettons-nous hors du contexte. Imagine-toi que tu es ni l'Occident, ni Daesh. Et que tu as devant toi, deux idéologies. Un, il te dit, moi j'ai raison et l'autre c'est Satan. Et l'autre, il dit, moi j'ai raison et l'autre c'est Satan. D'où tu sais qui a raison et qui a tort? D'où tu sais? Qui suis-je, moi, pour dire ce que Dieu pense?
Qui avec les mains des innocents, c'est un fou.
Les autres, c'est tu. Pour la bonne cause. Mais ce que toi tu penses être une mauvaise cause, pour eux c'est une bonne cause. Est-ce que toi tu penses être une mauvaise cause, pour eux c'est une bonne cause? Qui définit qu'est-ce qui est une bonne cause et une mauvaise cause?
Personne ne peut pas te donner raison.
Qui va définir? Qui va définir? Tu vois, par exemple, vous savez, moi, j'ai ressenti ça surtout quand j'étais en Israël. Quand tu vas en Israël, là-bas, nous on sait qu'on a la Torah dans nos repères. Mais quand tu vas à la frontière, j'ai eu plusieurs fois là-bas, d'accord? Non, pas dans le nord. Tu vois, là-bas dans la vraie frontière, avec Gaza, avec Gush Katif, etc. Et tu vas là-bas, tu parles avec des gens. Tu vas là-bas, t'es à la frontière. Maintenant, des deux côtés de la frontière, t'as un qui va te dire le Satan c'est l'autre, l'autre qui va dire le Satan c'est l'autre. Et les deux sont persuadés. Qui a raison? Oui, mais qui a raison?
C'est nous.
Alors, bien sûr que moi je vais dire que c'est nous une carrière, mais tu sais. Ça c'est la réponse. Attendez, voilà. Non, voilà. Mais attendez, c'est là, voilà où je vais arriver. C'est qu'on est obligé d'avoir quelque chose qui est au-delà de tout ça et qui nous donne des repères. Parce que si les repères sont créés par les hommes, dans ce cas-là, je vais créer des repères par rapport à ce que moi je pense être juste. Et dès que je pense que le repère, il est pas juste, alors je bouge le curseur. Je dis le curseur, au lieu d'être là, il est là. Si les repères sont créés par l'intellect, alors.
On va s'en accommoder.
Exactement, on va s'en accommoder, on va dire maintenant il était là, aujourd'hui il était là. Il y a un commentaire très fort du rabbi, très dur même peut-être du rabbi, dans lequel le rabbi fait remarquer la chose suivante. Il dit que quand on regarde la Shoah, qui a fait la Shoah?
Les nazis.
D'accord? Les nazis. Maintenant, qui? Bon, vous allez me dire Dieu derrière, etc. Bon, concrètement, c'est les nazis qui étaient derrière. Alors, maintenant, les nazis, qui étaient les nazis à l'époque? C'était pas un pays du tiers-monde. Non, mais attendez, on va réfléchir. C'est pas des gens, c'est pas des imbéciles. C'est pas des animaux. Dans la vie de tous les jours, c'est pas comme des animaux.
Et qui c'était?
D'accord. Mais c'est quoi les nazis? Marchema. Il faut même dire le nom, on ne doit pas dire le nom. D'accord? C'est des gens qui étaient, c'est des gens qui représentaient à l'époque le summum de l'intelligence, du développement. Les plus grands médecins étaient là-bas, les plus grands philosophes étaient là-bas. Jusqu'aujourd'hui encore, les plus grands philosophes qui existent sont là-bas. Marchait même. Alors comment tu peux expliquer qu'une nation, c'est pas un commentaire à moi, c'est un commentaire du Rabbi. Comment tu peux expliquer qu'une nation, qui est censée être avancée, qui est censée être développée, arriver à une conclusion qu'il faut se débarrasser d'un pan entier de l'humanité? Comment ils peuvent arriver à une conclusion comme ça? Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi? Rabbi il dit comme ça. Mais il l'a vécu ça. Vous savez que Rabbi était en France jusqu'en 41. Il était là. Il a vécu ça. Il a dû se sauver. Il était à Vichy. Il était à Marseille. Il était à Paris. Il était partout. Il a tourné partout ici. Pendant la guerre. En 41. Et le Rabbi il expliquait la chose suivante. Que d'où vient l'erreur? La base de l'erreur, c'est lorsque le comportement de l'être humain n'est basé que sur son intellect. Lorsque le comportement de l'être humain n'est basé que sur son intellect, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'intellect, il peut te faire dire une chose et son contraire. C'est-à-dire que l'intellect, il a aucun problème à te cachériser un génocide. Te dire que il faut faire un génocide maintenant, Dieu préserve, d'accord? C'est la bonne chose à faire, logiquement. On a des, j'ai pas envie de vous écouter, mais c'est la réalité. On a des descriptions comme ça de ils marchaient mal, j'ai pas envie de même pas dire leur nom. Ils étaient là, ils tuaient des juifs et ils avaient le sourire ou la sérénité. Comment ils peuvent faire ça? Ça, c'est une personne qui a réussi à trouver une idée dans sa tête. Je parle pas des animaux, cher. Il y a des gens qui ont réussi à se faire une idée dans la tête. Ça, c'est le problème de quelqu'un qui n'a pas de repère. Quand t'as pas de repère, ou si les repères sont créés par l'être humain, l'être humain, il bouge le curseur. Il dit, maintenant, en fait, aujourd'hui, on pense que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, et demain, on va bouger le curseur. Donc, quand tu as des repères qui sont créés par l'être humain, ça marche pas. Par contre, pourquoi nous, on pense que nous, on a raison? C'est pas parce que moi, je pense que j'ai raison. Qui te dit que t'as raison? Pas parce que moi, je pense que j'ai raison que j'ai raison. Je pense que j'ai raison parce que j'essaye de baser mon propos sur la Torah. J'essaye.
Non, et encore. Que la Torah, c'est les paroles de Dieu.
Voilà, parce que la Torah.
Mais les autres aussi en face, ils disent que le Coran, c'est les paroles de Dieu.
Je comprends. Alors, dans ce cas-là, on va discuter.
Les autres aussi en face, ils disent que c'est
okay.
La Torah.
Ok. Dans ce cas-là, on va confronter. Pas de problème. Et on confronte. Tu vois qui était antérieur? Eh ben oui. L'origine. Tu veux discuter, on discute. On retourne aux sources.
L'origine.
Tu vois,
plus légitime qu'une.
Mais parce que comment tu veux que l'autre, leur prophète là-bas, il est venu, ça fait combien de temps?
Non mais
attends, j'ai une question à te poser. Il y a combien de temps?
Hein? 15 siècles.
Hein? Bon, d'accord. Donc c'était bien avant l'histoire d'Ishmaël. Donc d'où il est sorti cette histoire-là? Qu'il n'y a aucune trace avant. Tout ce qu'il raconte, il n'y a aucune trace avant. D'où ça sort? Il raconte que Ishmaël, etc., le sacrifice. C'est pas qu'il n'y a aucune trace avant. D'où ça sort? Nous, on a des traces, nous. Nous, on a des traces qui remontent chez nous et chez les goïms. Mais après, on peut discuter, mais c'est pas le jeu du cours. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est que, on est obligé d'avoir des repères dans la Torah. Et là, je reviens à notre cours. Parce que, il faut bien comprendre que c'est ça ce qu'il veut expliquer dans ce cours. Il veut t'expliquer quelle est l'ampleur de la galoute. Parce qu'on a la semaine dernière, on s'est pas arrêté sur ce point-là. Je voulais revenir dessus. Quel est le problème de la galoute? Alors, les gens vont dire, le problème de la galoute, c'est qu'on n'a pas notre pays, qu'on n'a pas le Beth Amikdash. C'est vrai que c'est un problème très grave. Mais encore plus grave que ça, le problème de la galoute, c'est quoi? C'est qu'on n'a plus de repères. Les repères sont très difficiles à trouver. Et que, ça veut dire que des fois, nous, par exemple, voilà, on est ici autour de la table. Je pense que quelqu'un qui est ici autour de la table, quelqu'un qui est plutôt religieux, au Hachem, je vais en Torah Mitzvot. Et des fois, tu vas parler avec quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais qui n'est pas religieux. Et des fois, peut-être, alors, directement ou indirectement, il te donne le sentiment comme si t'es un arriéré. Comme si t'es un... D'accord? T'es la vieille génération. Et que bon, c'est passé, c'est dépassé ce que tu fais.
C'est passé, ça.
D'accord? Maintenant, ou il te le dit clairement, parce qu'il est honnête, ou il te le dit pas clairement, mais il te le fait ressentir. Et donc, t'es un peu perdu, parce que... Pas perdu, mais ça te dérange un petit peu. Parce que si encore le gars, il veut fauter, il dit, bon, je sais que c'est interdit, mais je kiffe, c'est bon. Je me fais. Sûrement, je paye. Ok, tu veux fauter, faute, c'est ton problème. Mais transformer la faute en mitzvah, ça c'est plus compliqué. Ça, c'est ça le problème de la galoute. Et c'est pour ça que dit dans le Mishnah de Pirkei Avot, a dit qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est ni la tranquillité des Rechaïm, et ni les souffrances des Tzadikim. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
tout est composé,
tout est flou. Et donc, c'est